Bleu, RCFM.
France Bleu.
Qui est là?
Hal.
Hal qui?
Avant tout le monde, nous allons jouer le jeu de Toc Toc.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Toc Toc.
Bienvenue dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Et ce soir, il sera question de musique, de grande musique, de musique classique, avec un bonheur pour moi, celui de recevoir le pianiste, le chef d'orchestre, l'arrangeur, que souvent je reçois à Canaries. Et oui, vous allez le comprendre très vite. Ce monsieur, vous le connaissez bien. Il est accompagné ce soir de ma complice, de l'une des complices des fous d'opéra, grande soprano Julia Knecht.
Qui est là?
Bonsoir, qui est là?
Bonsoir, je dois me présenter. Eh bien, Olivier Cangelosi.
Oh, Olivier Cangelosi, soyez le bienvenu.
Merci.
Julia, vous, je vous ai annoncé bonsoir.
Bonsoir.
Et merci. Si vous êtes là tous les deux, c'est que vous proposez beaucoup de travail, de collaboration, et ce depuis des années, au public. Et il y a eu notamment une très belle chose qui s'est produite à Calanzane. Et du coup, forcément, ça continue cette aventure-là, autour de la folie à l'opéra.
Oui, tout à fait, puisque notre duo que voilà, nous avons intitulé Saint-Saëns, en fait, c'est un compositeur qui nous réunit, Olivier et moi, depuis maintenant 10 ans, parce que nous fêtons nos 10 ans cette année de collaboration. Et nous avons décidé de jouer cette folie à l'opéra que je mets en scène et que nous avons créée aux rencontres musicales de Calanzane. Et nous redonnons donc cette folie autour des personnages fous de l'opéra le 11 mai à Paris, au Théâtre des Rendez-vous d'ailleurs.
Pourquoi Saint-Saëns, Olivier?
Pourquoi Saint-Saëns? Parce que...
Pourquoi Camille Saint-Saëns? On a pas... Il faut dire
oui,
son prénom quand même.
Camille Saint-Saëns, déjà, il faut savoir qu'il est boudé. En France, on ne donne pas ses opéras, si ce n'est Samson et Dalila. On boude Henri VIII, on boude Étienne Marcel, on boude sa musique de chambre. Enfin, il est boudé sous prétexte qu'il est une étiquette de...
Il est dénigré parce qu'on le trouve pas à la mode. Qu'est-ce que c'est?
Oui, c'est ça, pas à la mode, conservateur, académique, alors que sa musique recèle des richesses incroyables. Et c'est vrai que c'est un compositeur qui nous a réunis, Julia et moi, et nous avons décidé de travailler beaucoup de ses mélodies qu'on avait données à l'époque à Monticello.
Oui.
On avait donné notamment un cycle La Cendre Rouge, sur lequel Julia a fait un mémoire lorsqu'elle était au conservatoire.
Et nous écouterons un extrait un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Donc ça, c'est ce qui vous réunit, Camille Saint-Saëns. Et c'est vous, je suis sûre, Julia, c'est vous qui avez demandé à Olivier, tiens, si on faisait un truc autour de la folie.
Oui, et alors et là, je me suis dit, oui, parce qu'en fait, notre relation, Olivier et moi, est un petit peu folle aussi. Donc en fait, on se connaît bien. Et je me suis dit, autant réunir nos émotions et notre amitié autour de la folie.
D'abord, voilà. Vous êtes très occupé parce qu'en tant que musicien, vous vous produisez. Vous répétez beaucoup, mais vous êtes enseignant également tous les deux, donc peu de temps. Et en plus, vous ne vivez pas du tout dans la
même
ville, ni même sur la même terre.
Oui.
Donc c'est encore plus compliqué. Oui. On sait, quand je vous reçois à Canaries avec Magali Albertine, que c'est compliqué. Vous vous réunissez pour Canaries en tant que pianiste et accompagnateur et répétiteur, je ne sais pas comment on dit.
Oui, mais cette année, on ne se réunit pas que... on va renouer avec une vieille tradition qu'on avait instaurée à Canaries, on va refaire du quatre mains à Canaries.
Parce que le public vous le réclame.
Le public l'a réclamé les 2 années passées où nous ne l'avons pas fait.
Ouais.
Et on veut répondre non seulement à cette demande, mais ça nous fait plaisir aussi de le faire, hein, il faut bien le dire.
Mais le public était ravi de vous entendre dans les sonates de Beethoven quand même.
Alors ça, c'est un pari fou que j'ai fait avec Jackie Scalia, qui est à l'initiative donc, du concours. Je lui ai dit, écoute, voilà, depuis que je suis ado, j'ai envie de donner ces sonates de Beethoven à l'intégrale. Il m'a dit, ben banco, on les fait à Canaries. Donc tous les ans, on en fait 4. Vu qu'il y en a 32, c'est un projet qui nous amène sur 8 ans.
Sur 8 ans.
Mais l'air de rien, on en est à la moitié. Cette année, c'est le quatrième concert.
Non mais, qui peut se dire, tiens, si je faisais l'intégralité des sonates de Beethoven, non mais à Cannes, Harry, comme un rendez-vous qu'on prendrait. L'idée est géniale,
parce que, parce qu'on s'y plaît, le lieu, le cadre s'y prête, on mêle opéra et musique instrumentale, musique pure. Voilà. Et puis
donc il y a le concert des pianistes, donc à quatre mains ou seul là, en l'occurrence, oui, avec Beethoven. Et puis surtout, il y a, enfin surtout, mais c'est important en tout cas pour les jeunes gens qui viennent, c'est l'accompagnement. Vous les suivez
du gros du,
c'est le gros du job.
Du job, oui, oui.
Oui, les sonates, c'est rien sans partition.
Oui,
sans,
oui,
ouais, c'est rien, rien du tout.
Ça, je le fais avant. Je prépare ça en amont.
Donc l'accompagnement, dites-nous un mot de ce travail-là.
C'est un autre travail. Hein, vous avez raison de le souligner. C'est un travail où on doit servir les chanteurs, où on doit faire en sorte qu'ils se sentent le mieux possible, qu'ils puissent respirer le mieux possible, parce qu'ils ont un stress du concours. Donc on doit essayer de faire en sorte qu'ils se sentent comme un poisson dans l'eau, et surtout qu'ils entendent l'orchestre. Parce que les airs d'opéra, en général, c'est l'orchestre qui accompagne le chanteur. Donc il faut qu'avec nos 10 doigts et nos 88 touches, on puisse donner l'impression que c'est l'orchestre qui les accompagne.
Il faut les porter également, les soutenir, voire les aider. On ne va pas utiliser le terme tricher, mais parfois un peu... On doit donner la main, quoi.
On doit les aider. Ouais. Et puis, c'est, même si on répète très peu avec eux, puisque c'est pas un concert, c'est un concours, on doit faire de la musique.
Ouais.
Avant tout.
Même ils ont des listes d'air et vous choisissez, Magali et vous,
alors,
avec qui vous allez travailler.
Ils envoient à Jakiska, il y a leur programme, c'est 6 airs chacun. Et puis avec Magali, selon notre humeur, nos envies, ce qu'on aime bien aussi, plus accompagner que, voilà, on se partage équitablement la vingtaine de candidats.
Il y a des petites querelles entre vous, sympathiques, hein, j'entends.
Il y a des airs qu'on a envie. Ouais. L'air des lettres, par exemple, de Charlotte, qu'on aime accompagner tous les deux. Mais il y en a toujours 2, 3, 4. Donc,
vous tirez à la courte paille à ce moment-là.
Oh non, on est conciliants, elle comme moi.
Vous avez commencé à travailler pour ce quatre mains ou pas encore?
On n'a pas encore
fixé. Ils vont improviser, je pense.
Non, on va s'y mettre. Alors c'est marrant parce que juste avant l'émission, j'ai essayé d'appeler Magali pour qu'on puisse en dire un mot.
Donc si elle nous entend, si par miracle, ce serait merveilleux. CFM. Magali, il faut nous appeler. Parce qu'elle en sait un petit peu plus. Vous voyez sur ce qui va se passer à Cannes,
oui,
avec Olivier Cancello aussi.
Non, on doit faire le programme.
Bien sûr. On va écouter un extrait parce que vous avez enregistré. Alors il ne s'agit pas de la première année, mais de la deuxième année, me semble-t-il. On a choisi, enfin vous avez choisi la sonate numéro 16, opus 31, numéro 1, oui, en sol
majeur.
On va pas tout écouter,
non,
mais tout de même, faites-vous plaisir avec ce premier mouvement sous les doigts d'Olivier Cancello.
Thank you.
nous en voulez, bien sûr. Ben oui, on aurait pu continuer à écouter Olivier Cangelosi, qui est en direct ici sur le piano de...
Jean-Pierre Janil, de mes musiques.
C'est très, très important. Et c'était à Canary, oui, évidemment, pour le concours, puisque traditionnellement, vous venez jouer les sonates avant que tout démarre. Quoi. C'est le coup d'envoi. C'est le premier soir.
Oui, c'est le premier soir.
Ouais. Et donc, cette année, vous allez continuer ?
Bien sûr, oui, c'est la quatrième édition, pas du concours, hein, de mes sonates, je crois que c'est la 16e ou 17e édition du concours, et c'est la quatrième édition de mes sonates de Beethoven, donc je vais en jouer quatre nouvelles, dont la fameuse Claire de Lune.
Et toujours sur...
Sur un piano de Jean-Pierre
Janil.
Non, mais c'est important qu'on le dise, parce qu'il règle magnifiquement ses pianos, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à jouer ses pianos.
Mais nous l'avons déjà eu dans cette émission, figurez-vous.
Ah.
Parce que nombreux sont les musiciens qui ont envie de le mettre à l'honneur, et c'est bien de le faire.
Vous avez tout à fait mérité.
Vous avez raison. Alors, le travail dont nous parlions, je lui ai un peu coupé l'herbe sous le pied, parce que j'avais peur qu'il déflore tout, puisque nous allons l'écouter, le fameux Mêle à cendre rouge de Saint-Saëns. Racontez-nous l'aventure de cet enregistrement que nous allons entendre.
C'était il y a fort longtemps
ou pas ?
C'était en 2013.
Ah ben oui.
C'était 2012.
Tu as raison. Oui, 2012, nous avons pris la décision l'enregistrement, c'est au CNSM de Paris.
Oui.
Justement, pour mon mémoire autour de Camille Saint-Saëns, cet enregistrement a duré quand même toute une journée.
Oui, oui. C'était un gros travail.
Et un gros travail, mais surtout, en fait, c'est un travail avec Olivier qui, pour moi, est plutôt facile, parce qu'on se rejoint beaucoup sur notre vision de la musique.
Oui, on se connaît bien.
Et je pense qu'on a un peu le même tempérament musicalement aussi. On veut un peu les mêmes choses. Et il y a à la fois cette souplesse, mais aussi cette nervosité qu'on peut entendre et ce dont on a besoin aussi chez un chef de chant. C'est ce côté aussi orchestral que nous propose Olivier. Puis Olivier me propose des couleurs au piano. Et moi, j'essaye tout simplement de les faire ressentir par ma voix.
Tu as fait un gros travail sur le texte,
musicalement aussi, parce que c'est un Saint-Saëns qui n'est pas un Saint-Saëns classique, c'est un Saint-Saëns un peu plus âgé. Et justement, où on parle de l'évolution de ce personnage, de ce compositeur,
Mon cœur s'ouvre à ta voix, pas du tout.
Non,
on est dans quelque chose de très très différent.
Très différent, mais à la fois aussi, voilà, difficile, parce que ces mélodies sont très opératiques et demandent beaucoup une largeur quand même vocale. Et Olivier, vous allez voir, hein, au piano, on pourrait tout à fait jouer les mélodies de la cendre rouge sans la voix aussi. Hein.
Ouais.
C'est très pianistique. Hein. Voilà.
Et celle que tu as choisie, je pense,
oui,
particulièrement. Oui.
Et j'ai choisi justement mai, puisque nous sommes au mois de mai. Et je me suis dit, ben autant parler du printemps.
Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant dans cet enregistrement. Vous venez de le dire, c'est très pianistique.
Oui.
C'est-à-dire que la partie du piano est aussi flamboyante, allez, on va dire aussi technique aussi.
C'est à part égale. Hein.
Ouais, belle
c'est
que la part de la voix.
À part égale. On n'est pas dans l'opéra où l'orchestre est en train de sertir la voix.
Pas du tout.
Là, c'est vraiment à part égale.
Oui. La différence entre un homme ou une femme qui serait chef d'orchestre, mais pas chef de chant.
Ah, oui.
Comment on fait la différence ? Comment on reconnaît un bon chef de chant ?
Ben, dans la respiration. Et puis,
connaissance des langues.
Oui, la connaissance des langues.
Connaissance des opéras.
Puis la connaissance des chanteurs, surtout aussi, oui. À savoir pas forcément la technique vocale, mais aussi le tempérament du chanteur.
L'exigence.
Oui, et un chef d'orchestre qui n'est pas chef de chant... On le ressent quand même, parce que généralement, un chef d'orchestre qui n'est pas chef de chant, c'est plutôt un chef d'orchestre qui pour des symphonies,
oui,
plus de l'instrumental, et qui se refuse même parfois d'être...
J'irais pas jusqu'à dire que c'est pas le même métier.
C'est pas le même métier.
Mais
hein.
Non, c'est pas le même métier, mais... dites-le.
Bah si.
C'est un chef d'orchestre instrumental n'est pas forcément un immense chef lyrique.
C'est ça.
Non.
Alors comment vous êtes tombé, vous, dans la marmite du lyrique, Olivier ?
Alors, c'est une histoire qui nous ramène en 98, lorsque j'ai rencontré Agnès Amati. J'avais fait un concert avec elle et avec André Orsigne aussi, qui nous a quittés il y a quelques années, qui était un ténor bastiais. Et j'ai aimé l'opéra au contact de ces gens-là qui m'ont fait découvrir tout cet univers. Et j'ai fait un bout de chemin avec Agnès, et avec Julia. On a fait beaucoup de concerts ensemble. Et...
Mais cela signifie qu'à ce moment-là, avant de rencontrer Agnès Amat, vous saviez peu de choses de l'opéra, vous aviez entendu peu de choses, même dans votre parcours musical.
J'avais entendu des choses, mais pour être tout à fait franc, je ne m'y intéressais pas. Mm-hmm. Donc c'était il y a à peu près une vingtaine d'années, donc j'étais âgé de 19-20 ans, et c'est vrai que je ne m'intéressais pas à l'opéra. Et c'est vrai que cette rencontre avec Agnès Amat a complètement transformé mon regard sur l'opéra, et... il y a pas une journée où je n'en accompagne pas, où je n'en écoute pas, où l'opéra m'accompagne et Agnès quelque part m'accompagne aussi comme ça.
Le 18 mai, il y aura un concert.
Oui, qui va lui être consacré et qui est à l'initiative, entre autres, de Julia. Peut-être que Julia pourrait en dire un mot.
Lors de du concert pour la Ligue contre le cancer. Donc, nous sommes, Olivier et moi, un peu à l'initiative et Anne-Marie Grisogne aussi, du Conservatoire de Bastia. Nous sommes un peu à l'initiative de cette troupe Agnès Amat pour rendre hommage à Agnès, et qui était notre amie, mais aussi une magnifique soprano insulaire corse d'Ajaccio. Et nous avons décidé de faire cet hommage maintenant chaque année, voilà, avec la Ligue contre le cancer.
Et ce sera au Théâtre Municipal de Bastia le 18 mai. Et évidemment, nous en reparlerons sur RCFM. On écoute Mets la cendre rouge du Camille Saint-Saëns, différent peut-être de ce que vous avez l'habitude d'entendre, avec une part égale pour le piano et pour la voix. Au piano, Olivier Cangelosi, à la voix, Julia Knecht. Cendre rouge. Qui signe ce texte ?
Georges Docquoy.
Qui était poète. Contemporain de Camille Saint-Saëns.
Oui, tout à fait. Et qui, pour la petite anecdote, était un petit coquin. Georges Docquoy.
Mais
il aimait beaucoup écrire des revues érotiques.
Non, écrire dans les revues érotiques, voilà. Je vais tirer mon chat. Mais oui.
Que lisait Camille Saint-Saëns. C'est
voilà,
comme ça qu'il
a découvert. Que lisait Camille Saint-Saëns.
Mais
voilà.
Oui, c'est ça. 17h quasiment 30, nous sommes entre chien et loup. On ne tient plus, Julia. Allez, Chouquette. On se reprend. Voilà, les gens qui la connaissent bien savent qu'on l'appelle Chouquette également.
C'est pour ça qu'il n'était pas très connu, finalement, des compositeurs classiques. Donc c'est bien, on sort un peu des clous. Et pourquoi pas ?
Non, mais c'est vrai que c'est un poète qu'on connaît peu.
Non, on ne connaît pas.
Non, dites-le,
Marie. En fait, on ne le connaît pas du tout.
Hormis ce
mais il gagne à être connu.
Oui, absolument.
Bon, voilà.
Ne serait-ce que pour ce cycle de Camille Saint-Saëns.
Alors, voilà. Pour ce concert du 18 mai au Théâtre de Bastia, vous avez déjà commencé à travailler, vous savez ce que vous allez faire, parce que vous avez déjà travaillé tous ensemble.
Le programme est fait.
On
peut en dire
beaucoup,
un mot
Bien sûr. Ouais. Alors, il y a une première partie mélodie, justement, et deuxième partie opéra, avec l'harmonie bastiaise aussi. Donc, en fait, le public sera accompagné de l'harmonie qui sera juste à l'entrée du théâtre,
dirigée par Lucien Aubert.
Et la troupe Agnès Amat, il sera composé de Jean-Marc Jonca, Françoise Luciani, Guy Luciani, Anne-Marie Grisogne.
Et Romain Barbogne.
Voilà. Tout, que des insulaires.
Il y aura Polo de Rocazer.
Merci.
Et grand violoncelliste, s'il vous plaît. Voilà. Il faut en parler.
Polo, surtout.
Et Émilie.
Et Émilie Ferry au piano.
Voilà, n'oubliez personne.
Il ne faut surtout pas oublier.
Le 11 mai, vous allez jouer votre spectacle à Paris.
Oui. Au théâtre des Rendez-vous d'ailleurs, dans le 20e.
Et le directeur de ce théâtre, qui est Philippe Boé. Le directeur de ce théâtre, qui s'appelle Philippe Boé, a tenu un rôle soliste dans le Henri VIII en 1991, Camille Saint-Saëns, dans lequel participait Michel Comand.
Oui, et nous allons.
Ah, oui. Michel Comand, que bien sûr vous retrouvez à Cannes, Harry, pour celles et ceux qui viennent pour ce concours.
Et nous allons chanter ensemble ce 11 mai. Nous allons faire un duo, le duo de la Traviata, Germont et Violette, Madame Igella Valérie, ensemble.
Bon, alors il faut expliquer quand même comment vous faites pour mettre en scène donc la folie à l'opéra, faire le spectacle, vendre le projet, pardon pour le terme.
Oui,
vous êtes des musiciens
ça.
Délicieux, mais il faut bien le distribuer, le vendre, donner.
C'est un produit.
Bon, déjà la
mise
en scène.
C'est une création.
Oui, c'est un peu ça. En fait, je regroupe un peu tous les airs de folie. Puis après, avec ça, il ressort des émotions particulières. Et ces émotions, j'en fais des accessoires. Donc, j'utilise chaque accessoire correspond à une émotion, correspond à un personnage. Et au fur et à mesure, je crée un petit peu cette ligne là.
Tu as construit une trame aussi.
Oui, j'ai construit une trame
psychologique.
Voilà,
pour
tout
enchaîner
à fait.
Ces airs et que ça fasse sens.
Et oui, que ça fasse sens, ça fasse rire comme là, par exemple. et que ça soit aussi dramatique et avec beaucoup d'émotions également, hein, parce qu'il y a de la folie, il y a la folie douloureuse, la folie amoureuse.
Vous n'êtes que tous les deux sur.
On n'est que tous les deux
sur scène.
Oui.
Pas d'invité.
Non.
Et lorsque vous parlez de mise en scène, il y a évidemment la chanteuse d'opéra que vous êtes, la soprano, donc qui est aussi actrice.
Oui.
Mais lui, vous en faites quoi ?
Alors, en fait, c'est souvent.
Est-ce qu'il en prend pour son grade ?
Oh, ben oui, forcément.
Ça peut arriver.
Il en fait. C'est un personnage aussi. Olivier fait partie un peu des personnages qu'on utilise à ce moment-là.
Sûrement intervenir pour la poupée.
Voilà, la poupée.
Pour remonter la mécanique de la poupée.
Exactement. Pour la Reine de la Nuit aussi.
Et oui.
Ça vous amuse généralement de participer,
oui. Ah bah, quand on est dans l'opéra, on est dans le monde du théâtre. Donc il faut jouer le jeu.
Bien sûr, bien sûr.
C'est du théâtre.
Dès lors qu'on met un pied sur scène,
c'est ça.
Et puis c'est aussi une façon pédagogique, puisque c'est aussi ça fait partie des actions pédagogiques que j'essaye de faire, vraiment amener l'opéra de manière ludique et de pas arriver seulement avec un opéra, mais de dire voilà, pourquoi pas transformer un petit peu tout cela en spectacle, faire participer le public et le jouer dans des petits théâtres aussi, voilà. Il n'y a pas que des grands théâtres, hein. Il n'y a pas que l'Opéra Bastille, tout ça. Il y a aussi des théâtres comme les Rendez-vous d'ailleurs.
C'est vrai que la proximité est importante dans ce genre de théâtre entre artistes et public. La vibration entre artistes et public n'est pas la même qu'une grande scène nationale comme l'Opéra de Paris, où les dimensions sont tellement grandes qu'on est très.
Ou la Scala, où j'étais au poulailler avec un poteau devant les yeux.
Oui, voilà.
C'est ça.
Je peux vous dire que pour les émotions, ça change tout.
Rien de tout ça au théâtre des Rendez-vous d'ailleurs.
Ah non, puisque je crois qu'il peut contenir que 50 personnes au maximum.
Vous l'avez créé à Calanzana, mais on le verra à nouveau, on l'entendra en Corse peut-être.
Ah ben j'espère, mais je compte.
Et c'est là que ma première question revient.
Oui.
Comment on distribue ce genre de création de spectacle ? Comment on vend ?
Là déjà, ce spectacle va être filmé et enregistré. Et je vais en faire on va essayer d'en faire un petit teaser de présentation. Et puis ensuite, tout simplement, il faut s'adresser au directeur de chaque théâtre, à des mairies également, qui pourraient nous proposer dans des festivals. Voilà,
parce que si on nous écoute là.
Ah ben, si on nous écoute.
Alors on lance un appel.
Lance un appel. Surtout que.
Sachez qu'il y a le piano de Jean-Pierre, hein.
Oui.
De toute façon, pour le matériel.
Qui est difficilement disponible l'été parce qu'il est très sollicité.
Très sollicité, en effet.
Et puis, parce que ça fait partie des autres. des autres projets aussi que nous avons avec l'association Fizar Musica, que
Jérémy, avec Jérémy Loyer,
Loyer, oui. Accordéoniste, artiste corse, et moi-même, nous représentons. Et Olivier fait partie donc des artistes que nous souhaitons diffuser, voilà, par le biais de ces spectacles.
Et toujours, parallèlement, le travail pédagogique.
Le travail pédagogique.
Dont vous parliez.
Oui, tout à fait.
L'enseignement et la transmission n'est jamais très loin avec vous deux.
Mais on est dans la transmission. Ne serait-ce que quand on est sur scène, on est dans la transmission. C'est, on a à cœur de faire aimer ce qu'on aime. Donc,
exactement.
On est dans la pédagogie, oui. la transmission.
Et puis aussi pour toucher un large public, parce qu'il y a des amateurs d'opéra, puis il y a des gens qui ne connaissent pas forcément. Alors aussi, parfois, passer simplement par la pédagogie, c'est inviter les gens à dire, regardez, vous savez, ce genre de spectacle existe. Et puis aussi l'opéra et ça.
Mais c'est très important, parce qu'un enfant qui arrive, qui est passionné, et qui dirait, ben voilà, moi je veux être pianiste soliste, ou je veux être chanteur d'opéra, ou chanteuse d'opéra, c'est... On peut pas lui dire, mon Dieu, tu ne te rends pas compte dans quoi tu t'embarques. Oui. On peut lui dire, il y a 1000 chemins.
Oui. Oh, oui.
Et on invite les parents à nous les amener à la fin des concerts pour qu'on puisse discuter avec eux, pour que la transmission soit aussi...
Et on les fait participer. Mmh. Et c'est justement ce qu'on nous allons faire aussi en juillet, parce que je voudrais en parler. Nous allons monter à Saradifar, ou grâce à la mairie.
C'est une première en plus.
C'est une première. Oui. Nous allons monter un opéra, donc la Don Pasquale, et Olivier nous sera notre chef de chant pour cet opéra.
Oui.
Et justement, tout autour de ces rendez-vous lyriques et classiques, il y a des actions pédagogiques que je vais tenir le matin, voilà, avec les enfants, en collaboration avec le baryton de cette production, qui est Jean-Marc Jonc, qui est vraiment notre chef d'orchestre à tous, je dirais, qui nous a invités bien gentiment à proposer tout ce projet-là, puisque les enfants seront bien sûr des piliers importants lors de ces rendez-vous. Et puis, bien sûr, d'autres musiciens corses, notamment Polo, qui sera présent pour ces concerts.
Il y aura plusieurs concerts
du 20 au 25 juillet. La mairie de Saradifar nous a permis de pouvoir les faire un peu dans tous les coins du village. Et ça sera en plein air, voilà, et sonorisé, et parfois pas. Parce que des fois, c'est des petits endroits un peu où on crée une certaine intimité. Et vraiment, on tient à remercier Monsieur le maire Antoine, qui se reconnaîtra, avec qui j'ai vraiment sympathisé. et puis Jean-Marc Jonca, bien sûr. Hein. Voilà.
Il a fait un travail formidable.
Merci à vous.
Donc, ce Don Pasquale et de Donizetti sera joué à Saradifar pour la première fois, autour toute une démarche pédagogique, avec les enfants qui seront mêlés à l'aventure. Oui. Et on peut imaginer peut-être qu'il fera de la route, parce que c'est tellement lourd à monter ce genre de création, que voilà, si vous nous écoutez, franchement, voilà, il nous faut un petit coup de main pour que ça continue.
Oui, que ça continue, parce que c'est des mois de travail et de blabla aussi, investissement, de rencontres, voilà, tout ça autour de l'artistique, bien sûr.
On vous écoute à nouveau avec Miroir jumeau, si je vous dis ça. Alors, c'est un poème, on l'a tous étudié, je pense, en classe, de Charles Baudelaire. La mort des amants, peut-être, ou le titre
c'est ça.
Pour la musique,
Alexandre Fontaine, qui était un ami à nous, compositeur, donc actuel, vivant.
Vous l'avez rencontré dans une revue
Non.
non, pas du tout. Non.
Oh, connaissant le personnage, ça aurait pu.
Ça aurait pu. Oh mince.
Comme Monsieur Doko avec Camille Saint-Saëns.
Voilà. Oui. On s'est rencontrés tout bêtement au Conservatoire de Paris. On faisait nos études ensemble. Et en fait, on s'est rencontrés parce qu'à l'époque, il voulait fermer certaines salles de travail. Et nous, on s'est un petit peu remontés contre ça.
Oui.
Et on dit, c'est pas normal. Et Alex était venu avec moi, on était allé voir le bureau du directeur pour dire, vous nous enlevez des salles de travail. Voilà, et c'est comme ça que j'ai rencontré Alexandre Fontaine et j'ai découvert sa musique. Je l'ai fait découvrir à Julia, qu'il a beaucoup aimé. Et nous avons décidé de créer cette pièce.
Alors vous qui êtes chef de chant, chef d'orchestre, pianiste, soliste, arrangeur...
Ça fait beaucoup de casquettes.
Ben oui, mais c'est vrai.
Il en manque une. Vous écrivez, puisque vous écrivez des arrangements.
Alors non. Je pense que je n'ai rien à dire dans ce domaine-là. Et il y en a qui font ça bien mieux que moi. Je me contente de déjà faire ce travail de chef d'orchestre, de chef de chant et de pianiste, un petit peu d'arrangeur de temps en temps.
Mais les arrangements, vous aimez beaucoup ça.
Ouais, j'aime bien, mais c'est la musique de.
Ouais. D'accord. D'autres.
Donc moi, je ne fais que les adapter à des formations musicales qu'on met à disposition.
D'accord.
Donc
il n'y a pas de désir caché ou de.
Aucun.
C'est juste un autre.
C'est encore un autre métier.
Une autre expression, un autre moyen d'expression qui n'est pas le vôtre.
Non.
Allez, on écoute Miroir Jumeau avec donc la musique d'Alexandre Fontaine et votre voix, Julia, et évidemment votre interprétation au piano. Mais c'est bien Alexandre Fontaine.
Oui.
Ben oui,
c'est bien. Magnifique de le passer sur
l'antenne. Ouais, c'est magnifique. Mais c'est
je
trop chouette.
Je pense qu'il va être très
content. Alors, vous nous disiez que les spectateurs, en général, c'est une pièce qui les accroche.
Oui, ça fait partie des pièces. Alors, on a justement donné cette pièce à Bigouille, au Centre culturel Charleroi. Et il y a un moment maintenant.
C'était en 2015.
Voilà, 2015. Et justement, j'avais fait tout un programme opéra, bel canto, même avec des tubes d'opéra, je dirais, entre guillemets. Et puis, j'avais présenté cette pièce et les gens sont venus me voir à la fin me disant mais de tout ce que j'ai préféré c'était cette pièce.
Tellement décalé par rapport au reste du programme où on avait une mélodie de compositeurs comme Fauré, des airs d'opéra.
Oui, c'est ça.
Et c'est vrai que ça interpelle.
Cette pièce. Alexandre a vraiment ce don de mettre l'ambiance déjà dès la première note et cette ambiance un peu, on dirait nébuleuse, un peu inquiétante. Et on a l'impression d'être un peu dans un film aussi. Donc forcément, on imagine très facilement, on se voit dans une scène. C'est un peu le talent des bons compositeurs, on dira, de savoir mettre dans une ambiance.
Je le disais, vous êtes enseignants tous les deux. Vous enseignez même le piano pour les
j'ai enseigné
ceux
pour
qui n'ont jamais joué. Voilà.
C'est vrai, j'ai enseigné pour les plus petits. Alors bon, maintenant, avec mon emploi du temps en tant qu'artiste, je n'ai plus trop le temps. Mais en effet, j'ai enseigné aux tout petits. Oui.
Quel genre de pianiste est-elle?
C'est là, moi j'adore.
Elle est nulle.
Non. Je l'ai entendu de nombreuses fois. Je crois que tu as été élève de Monsieur
Coste. Élève de Monsieur Coste. Thierry Granier.
Oui. Voilà. Et je l'ai entendu quelques fois jouer. Elle peut s'accompagner pendant qu'elle chante.
Oui.
Très peu de chanteurs lyriques peuvent le faire.
Moi qui en côtoie beaucoup de chanteurs, je crois que t'es une des seules à le faire.
C'est très rare, oui.
Et elle a joué des morceaux de piano, la fantaisie impromptue de Chopin. Elle a joué des pièces difficiles.
Voilà, maintenant je me consacre vraiment à mon instrument qui est la voix. Sûr. Donc le piano, j'ai pu laisser, mais j'aime bien les tout petits en piano. Je n'ai pas la prétention de... Voilà.
C'est marrant parce que des fois, elle fait des vidéos, elle me les envoie.
Je les envoie.
Elle joue du piano, elle me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?»
Oui, donc ça veut dire que ça fait partie des premières amours.
Ah, tout à fait.
Et ouais, ça reste là.
Ah, bien sûr, moi j'adore le piano.
Vous jouez souvent ?
Oui, j'aime bien jouer toute seule aussi, des fois, tranquillement.
Sans
que personne n'écoute. J'aime bien être dans... Ça fait partie de mes moments de méditation, on dira. Et puis, de temps en temps, j'en envoie Olivier. Mais c'est vrai que le piano, pour moi, est un instrument que j'aime vraiment.
Quel chanteur est-il ?
Alors, Olivier ne chante pas. En fait, je crois que c'est quelqu'un...
Mais vous avez déjà entendu sa voix ?
Oui, quand il nous fait travailler, parfois. Par contre, il a le geste vocal. Alors ça, c'est très surprenant. Olivier a le geste vocal.
C'est quoi le geste vocal ?
Ça veut dire qu'il arrive à montrer, je dirais, pas niveau sonore, mais niveau peut-être physique.
D'accord.
Physiquement, il arrive à montrer comment ça peut se passer, comment ça doit se passer. Mais en fait...
C'est pas mal, ça.
Mais il n'a pas la voix.
Toute ma vie, j'ai été entourée de chanteurs et chanteuses magnifiques comme Agnès ou Julia. Ouais. Donc, à un moment donné, on comprend comment ça marche.
Même
si je ne sais pas le faire.
Mais vous qui êtes un merveilleux musicien, est-ce que vous chantez faux, par exemple ? Moi, c'est un truc qui me...
C'est pas terrible.
Non, je pense que c'est pas faux.
Je pourrais pas faire le concours là, le Canari cette année.
Vous pouvez pas faire les sonates de Beethoven, l'intégrale. Donc ça va se passer sur je ne sais combien d'années.
Encore 4 ans.
Oui, sur rien du tout. Et jouer à 4 mains avec Magali Albertini et en plus faire le concours tout de même.
Bien sûr. Non.
Vos projets, l'ensemble Magellan ?
Oui, toujours. Bien sûr. Ben on sera donc au domaine de Mourtoli le 15 août.
Oui.
On va faire donc une soirée mi-opéra, mi-soirée corse avec le groupe Sourdienti. Et puis moi, je continue à travailler avec eux à Paris régulièrement.
Qui sont-ils ?
Mais pareil, ce sont des amis du conservatoire. Vous savez, le conservatoire brasse énormément de gens. Ouais. Et y en a certains avec qui on tisse des amitiés, des affinités musicales, des... Et c'est comme ça que se fait aussi un petit peu le réseau. Il n'y a pas que le système d'agents, il y a aussi la rencontre et ce qu'on aime chez l'autre.
On écoute alors un extrait, je préviens les auditeurs, c'est un teaser de cette soirée de Mourtoli. Donc vous allez entendre aussi bien l'ensemble Magellan dirigé par Olivier Cangelosi, que Julia Knecht chanter, que les Sourdienti chanter, et puis hop, tout le monde va se réunir à la fin.
Oui. Juste préciser qu'ils sont tous des musiciens exceptionnels, mais tous titulaires d'un poste de premier dans des orchestres. Qui est premier violon, qui est première contrebasse, qui...
Mais il fallait trouver un nom. Mais en fonction pour qu'on le sache.
Parce qu'on explore beaucoup de choses, dont la transcription.
Eh oui.
Donc on fait beaucoup de transcriptions d'opéra et pour apporter justement un public qui n'aurait pas accès à l'orchestre. Donc c'est une des missions de l'ensemble Magellan.
Mais ça, c'est
voilà pourquoi Magellan.
Voilà, d'accord. Ça marche bien du coup. Et c'est le travail aussi de l'arrangeur de faire ça.
Alors je suis pas le seul arrangeur pour le coup. Ralph Sighetti, qui est alto solo de l'orchestre de Liège, le Royal de Liège, fait aussi quelques arrangements. D'accord. Mais à Mourtoly, il se trouve que ce sont
c'est
les
toi.
Miens.
En l'occurrence, mais oui. Bon, vous n'êtes pas tout seul à signer les arrangements, oui. Parce que je sais que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, aller fouiner dans la musique, collecter des partitions.
Oui. Je cherche beaucoup.
Ouais,
souvent, je découvre des nouveaux airs d'opéra. Ouais. Je dis, ah, Julia, il faudrait que tu travailles ça.
Oui. C'est pour ça qu'en fait, c'est au téléphone un peu quotidiennement. Parce qu'on a toujours quelque chose à se dire musicalement.
Oui,
j'ai découvert ça. Peut-être qu'on pourrait faire ce cycle. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est toujours la recherche. Un peu ce qu'on devrait faire quotidiennement.
C'est notre
mission. Pas seulement.
En tant qu'artiste, non seulement de donner au public ce qu'il aime, des airs d'opéra. D'opéra qu'il connaît et qu'il aime, mais aussi de le faire sortir un petit peu, faire un petit peu un pas de côté pour découvrir des choses auxquelles il n'aurait pas accès.
Alors vous serez donc au mois d'août à Mourtoly, on va écouter le teaser de ce type de soirée pour comprendre à quoi ça peut ressembler. Le 11 mai, vous serez à Paris pour redonner la folie à l'opéra avec votre duo, Saint-Saëns.
Oui.
Et ce sera donc le lieu, pardonnez-moi...
Le Théâtre des Rendez-vous d'ailleurs.
Le Théâtre des Rendez-vous d'ailleurs.
Paris 20e.
Le 18 mai au Théâtre de Bastia pour ce concert avec la Ligue contre le cancer en hommage à l'artiste lyrique et à votre amie Agnès Amat. Et puis, en juillet, Olivier, vous serez le chef de chant de Julia et d'autres pour l'opéra Don Pasquale de Donizetti. Et ce sera à Serra di Ferro.
Oui.
Et alors là, il y a plein de choses qui se greffent avec justement la transmission avec les enfants. Et puis, on espère que ce Don Pasquale cheminera.
Oui,
dans d'autres salles.
Tout à fait. Le 25 juillet.
Drôle.
Sous nos yeux.
Oui.
Ouais. Et ça, c'est le 25
juillet.
Juillet. Oui. On écoute ce teaser de Mourtoly.
Oui,
quand c'est du live, oui.
Julia, vous êtes très active sur les réseaux sociaux.
Oui.
Vous êtes quelqu'un qui réagit pour que l'écologie soit respectée, par exemple, pour voilà toutes les injustices, les misères. Oui. Ça vous agace, donc vous êtes souvent là pleine d'enthousiasme, mais aussi pour la musique. En général, vous réagissez en disant on fait ce qu'on aime, ce qu'on veut, et si on se fait plaisir, eh ben c'est un peu notre bonheur.
Notre bonheur, voilà, exactement. Ouais. Et puis je défends aussi les artistes comme je peux,
bien sûr,
en parlant en mon nom, mais je me dis que finalement,
vous défendez les fous d'opéra.
Je défends les fous d'opéra parce que j'adore cette émission. Il faut qu'elle continue cette émission parce qu'elle est magnifique. Elle est spontanée. Enfin voilà. Et ouais. En fait, elle résume un peu ce que je défends, la spontanéité et la liberté. On est très libre dans cette émission parce que parfois on bifurque un peu sur. Mais c'est ça l'art aussi. Rien n'est figé, rien n'est fixe. Au contraire.
C'est drôle.
Voyage.
C'est d'ailleurs le commentaire que j'avais inscrit, je crois, en toute liberté.
Mais oui. Ouais, ouais. Et puis on s'ennuie
c'est
pas.
C'est ça la musique.
Et on s'ennuie pas parce que des fois, quand c'est tout bien fait, parfait, avec des règles bien respectées.
Les règles sont faites pour être transgressées.
Mais oui.
Mais l'art lyrique est corseté. Vous êtes d'accord?
Oui.
C'est compliqué.
Parfois, c'est compliqué. Ça devient de moins en moins, mais ça dépend des maisons.
Tout dépend de comment on a envie de le donner.
La musique classique également est corsetée.
Tout dépend de l'artiste, de ce qu'il a choisi de transmettre, de jouer, de la façon dont il l'amène. Aujourd'hui, moi, je crois beaucoup aux concerts pédagogiques, où on présente, où on explique un petit peu. Je crois plus au récital, où le pianiste, en l'occurrence, arrive, joue et s'en va, et salue et s'en va. Je crois qu'on a besoin de recréer une proximité avec le public.
Oui.
Le public d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, on n'a pas les mêmes références, on n'a pas... Et je crois que c'est important, c'est aussi notre mission de guider l'écoute du public.
Et puis la joie, pardon, je vous interromps, la joie, l'amusement, on sait les années de travail, on sait les heures de travail, mais qui continuent,
bien sûr,
on travaille tout le temps. Olivier disait, je ne sais même pas le temps que je passe sur mon piano, des fois je ne me rends même pas compte des 4 heures ou des 5 heures qui sont passées. Pour le chant, c'est pareil, pour tous les instruments, c'est pareil. Donc le public a besoin de vous voir heureux et vous amuser, et pas justement dans la souffrance ou le carcan ou le...
Oui. Voilà. Mais justement, ça, c'est notre cuisine personnelle. Quand on arrive sur scène, on vient présenter, alors je vais parler en tant que commercial, mais on vient présenter un produit fini.
Oui.
Et c'est vrai que c'est important de laisser tout problème derrière le rideau, quoi.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux, Julia Knecht et Olivier Cangelosi. On rappelle les dates, le 25 juillet, ce sera à Serra di Ferro pour Don Pasquale. Ça va être absolument extraordinaire, vous serez le chef de chant, mon cher Olivier.
Norine, je serai Norine du coup, dans le Don Pasquale.
Ah ben oui, vous y serez forcément.
Voilà. Et puis, un grand merci à la mairie de Serra di Ferro qui vraiment croit en ce projet d'art lyrique.
Et joue le jeu.
Voilà.
Vous serez donc le 18 mai au Théâtre de Bastia pour ce concert avec la Ligue contre le cancer en hommage à Agnès Amati, donc immense soprano insulaire disparue trop tôt. Et puis on vous retrouvera également donc à Paris, ça c'est très prochainement, le 11 mai au Théâtre d'ailleurs.
Des rendez-vous
d'ailleurs.
Le 15 août, vous serez avec l'ensemble Magellan au domaine de Mourtoli. Et on se quitte avec une sonate.
Oui.
Ça vous dit ?
Ah ben oui.
Ah, volontiers.
C'est vous.
La passionnate.
Ah, il savait déjà, Olivier Cangelosi. Donc interprété par Olivier Cangelosi. Merci à tous les deux, la musique, comme dirait Dédé Cisque, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le partage. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Thank you.
RCFM.